Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez bien Radio Albitzès et vous faites bien. En ce début d'année 2021, nous allons parler de l'association Jaurès Espace Tarn, créée il y a 23 ans. La JET est toujours vivante dans le paysage culturel et politique tarnais. C'était en 96 à sa création. Elle était fondée sur un constat lucide. Toutes les dimensions de la vie humaine sont soumises à la domination de l'argent. Le capitalisme est source de conflits générateurs d'inégalités sociales et cruelles. Et l'échec du monde soviétique et du modèle donc social-démocrate. Depuis 23 ans, ce sont pas moins de 160 conférences, rencontres, débats, animations, projections, en lien avec l'actualité et les enjeux du moment que la JET a rendu possible dans l'espace tarnais. Et pour en parler, on est aujourd'hui avec Sylviane Vielle. Bonjour Sylviane.
Bonjour.
Et Jacques Trinque. Bonjour Jacques.
Bonjour.
On vous reçoit donc en ce début 2021. J'ai dit que la JET avait 23 ans. On va commencer dès le départ. Je vais vous faire écouter un petit son pour vous faire réagir. Et puis ensuite, on parlera de l'actualité de la JET.
Qui était Jean Jaurès? Dans ta ville ou ton village, tu connais sûrement une rue ou une école qui porte le nom de Jean Jaurès. Cet homme politique a droit à de tels honneurs parce qu'il s'est battu toute sa vie pour plus d'égalité et de justice entre les citoyens. Jean Jaurès est né en 1859 dans le Tarn, dans le sud de la France. Ce très bon élève poursuit ses études à Paris, une marque de réussite à l'époque. Ses idées pour les droits de l'homme le poussent à être professeur de philosophie. Mais très vite, il a envie d'agir. Il veut faire de la politique. À 26 ans, en 1885, il devient député du département du Tarn à l'Assemblée nationale. Il combat les inégalités entre riches et pauvres, veut bâtir une société plus juste et rendre l'éducation accessible à tous. On dit que c'est un homme de gauche. Il va à la rencontre des mineurs, des ouvriers, des paysans et raconte leurs difficultés dans des articles de presse. Il a créé en 1904 un journal qui existe toujours, le quotidien L'Humanité. Il est connu pour être un grand orateur. Ses discours pour la cause des plus faibles sont mémorables. À la veille de la Première Guerre mondiale, ses idées en faveur de la paix dérangent. On l'accuse même d'être au service de l'ennemi. Le 31 juillet 1914, il est assassiné à Paris. Cet acte a bouleversé la population et les hommes politiques de tous les partis. Après la guerre, son corps a été transporté au Panthéon parmi les personnages qui ont marqué l'histoire de France. En 2014, 100 ans après sa mort, de nombreuses personnalités politiques ont salué le grand homme que fut Jean Jaurès.
Voilà, c'était un extrait d'un podcast pour les enfants qui expliquait en une minute top chrono la vie de Jaurès. Tout ça pour parler un peu de pourquoi la JET, dans la JET il y a Jaurès, on va peut-être développer pourquoi, et puis parler aussi de qu'est-ce que c'est que la vulgarisation. Là on a entendu de la vulgarisation pour les enfants, peut-être on viendra sur votre définition à vous de la vulgarisation. Alors d'abord, pourquoi Jaurès? Pourquoi association Jaurès Espace Tarn? Jacques?
Bien, disons qu'au moment de sa création, on avait la nécessité donc de faire quelque chose pour informer le grand public et surtout les militants sur des sujets qui étaient plus ou moins délaissés par les grands médias. La création, l'idée de la JET est née en 96 et on se souvient tous des mouvements, disons, sociaux de 95. Mmh. Et c'est une conséquence, la création de la JET, de ces mouvements qui ont donné l'idée qu'il fallait peut-être non pas éduquer, mais rendre compte d'un certain nombre de phénomènes de notre société qui n'étaient pas abordés par ni le journal ni la télé. Et donc, on a quelques-uns créé cette association qui, fonctionne depuis 23 ans à peu près sur le même modèle. C'est-à-dire qu'on a un expert et à partir des dires de cet expert sur un sujet que nous avons choisi, un comité donc de l'association, à partir des dires de cet expert, eh bien, le public peut s'exprimer et donner son avis pour ou contre. Et il n'y a jamais eu de bagarre, disons, au sein de ces réunions.
Est-ce qu'on peut dire aussi, je crois que c'est 95, c'est Bourdieu qui était sur le sociologue Bourdieu qui avait pris position aussi. C'était aussi une façon de dire aux intellectuels de s'engager dans leurs paroles, qu'elles deviennent politiques plus que théoriques.
Oui, un peu. C'est-à-dire qu'on voulait faire entrer le politique au sens noble du mot chez le citoyen et non pas simplement chez le partisan, c'est-à-dire celui qui s'est engagé dans un parti politique. On faisait de la politique sans parti politique. Voilà, c'était l'enjeu et le pari que, je pense, la JET a réussi à tenir pendant ces 23 ans.
Si on revient donc sur qu'est-ce que c'est qu'apprendre, est-ce que là, on a entendu un fort résumé, c'est très très résumé, en une minute, résumer la vie de Jaurès, c'est assez compliqué. Qu'est-ce que c'est apprendre, peut-être Sylviane, nous dire qu'est-ce que c'est que l'émancipation ou l'apprentissage pour vous ?
Alors, continuer à apprendre après l'âge de l'enfance. Pour moi, continuer à apprendre, c'est surtout rester vivant. C'est rester jeune. Rester jeune dans sa tête, dans l'actualité, dans le présent. Apprendre, c'est essentiel et c'est vital. Apprendre, c'est aussi comprendre. Comprendre pour pouvoir réfléchir, pour ne pas se laisser endoctriner. Apprendre, comprendre pour agir en liberté. Bon, apprendre soi-même, évidemment, mais aussi apprendre pour apprendre aux autres, pour enseigner aux autres, pour pouvoir échanger, pour progresser, pour construire ensemble. Ce sont les devises de la JET. Pour moi, apprendre, c'est le plus beau verbe, avec le verbe aimer.
Et donc, on continue à apprendre à tout âge, hein ?
C'est oui. Ça le but ? Oui, on continue à apprendre à tout âge. Pour moi, c'est vraiment essentiel. J'aime continuer à apprendre et je ne peux pas m'empêcher de continuer à expliquer aux autres. J'étais enseignante, c'est un gros défaut.
Est-ce que justement, un des buts aussi de la JET, c'est de montrer que tout savoir est quelque part politique ?
Bien sûr, tout est politique. La politique avec un grand P.
Disons qu'on a essayé de démystifier peut-être un certain nombre de notions en les rendant politiques alors que les gens les avaient apprises sans le contexte politique, au sens pas politicien du moins, à l'école. Voilà.
Comme si c'était naturel alors qu'on pourrait se poser des questions sur...
Absolument.
Notamment l'économie ou des choses comme ça. Mm-hmm. Parmi l'histoire de la JET, dans l'histoire justement, je vois sur le tout nouveau site de ajet.fr, je crois bien qu'il tout simplement, ajet.fr.
Tout à fait.
Nouveau site donc, pour cette année 2021, tout neuf, qu'il y a l'historique de la JET notamment, et on peut voir que les premières conférences qui ont eu lieu fin 1997, il y avait une première conférence avec l'économiste Berthelot qui évoquait des problèmes posés par la mondialisation à l'époque, et ça se passait au Collège Jean Jaurès à Albi. Et puis il y a une deuxième conférence, toujours en 97, fin novembre 97, autour des propositions pour une pédagogie de la paix et de l'éducation populaire par Jean Lorrain. C'était à la bibliothèque municipale de Castres. Alors justement, qu'est-ce que c'est que l'éducation populaire selon l'association Jaurès Espace Tarn ? Est-ce que vous avez une définition à fournir et est-ce qu'elle a évolué depuis 23 ans selon vous, l'éducation populaire ?
L'éducation populaire, comme étymologiquement ça voudrait dire, l'éducation du peuple, l'éducation des gens, étant donné que l'école fait ce qu'elle peut, mais elle ne peut pas tout. Et donc, je crois que sur un certain nombre de sujets qui ne sont jamais abordés, la JET a la place et le devoir de les aborder. Donc, le débat est indispensable, mais l'expert aussi est indispensable. Et c'est ce qu'on a voulu faire, disons, au sein des réunions à JET, c'est qu'il y ait deux parties bien différentes. La partie première, qui est la partie de l'expert, que l'on invite, par exemple, sur la religion et les femmes. Hein. Bon, ça, j'ai jamais vu traiter un truc comme ça à la télé ou à la radio. Hein. Bon, il y a l'expert qui en parle. Et puis, il y a le débat avec la salle. Et dans le débat avec la salle, c'est un débat qui a lieu entre la salle et, je le répéterai souvent, le conférencier, dont l'expert, mais aussi un débat qui a lieu entre les gens qui viennent d'assister à la conférence. Et on a eu la surprise de voir que venaient assister à nos conférences des gens qui n'étaient pas du tout du même avis et sur lesquels et entre lesquels il s'est établi un dialogue à propos de cette conférence.
peut-être qu'on peut dire quand même, on parlait tout à l'heure de Jaurès qui est un homme de gauche, c'est que la création de la JET est quand même ancrée à gauche, même si on sait justement que l'histoire des gauches, elle est complexe, elle est pleine de conflits d'idées ou même de conflits plus sanglants parfois. La création de la JET, c'était aussi pour dire, ben, on peut discuter entre personnes de gauche qui puissent s'entendre sur des concepts ou des analyses.
Oui, disons que le Jaurès est apparu comme l'homme qui a essayé de réconcilier des gens qui, tout en ayant une même philosophie qui était la philosophie de gauche, se brouillaient ou se disputaient sur des détails, et il est arrivé à les réconcilier sur un certain nombre de points communs, hein, qui étaient partagés par tous. Et c'est un petit peu ce qu'on veut essayer de faire, enfin ce qu'on tentait. Voulait tenter de faire au sein de la JET. Alors, je ne sais pas si on y a réussi ou pas, mais disons que, voyant le public qu'on a eu depuis 23 ans, c'était un public qui était largement partagé, et tous les gens qui venaient écouter les conférences de la JET n'étaient pas des gens de gauche.
Je voudrais vous faire écouter un autre son qui a un rapport avec l'éducation populaire, du moins avec un de ses aspects, l'analyse des mots, mais aussi la vie financière des associations, et on en reparle tout à l'heure. Juste après, avec nos invités donc de la JET, Sylviane Vielle et Jacques Trinque.
Une sorte de jeu. Une habitude potache remontant du fond des âges lycéens. Dorénavant, lors de chaque rendez-vous avec un financeur, l'irresponsable associatif que je suis a adopté la méthode des petits bâtons tracés discrètement sur un coin de feuille pour comptabiliser le nombre de fois où est prononcé le mot « innovation ». Et on obtient des scores de plus en plus impressionnants.
Innovation. Quelle forêt en feu tente de cacher l'inflation de ce concept désormais employé systématiquement comme une fin en soi ? Difficile de ne pas remarquer que sa récurrence croissante correspond à un durcissement sans précédent du contexte pour les associations et plus globalement pour la société civile.
Ce mot est de ceux qui ont permis de changer les termes de l'échange entre financeurs publics, ceux qui administrent un bien commun, l'argent public, et financés, ceux qui font concrètement sur le terrain.
Il ne s'agit plus de savoir ce que vous voulez faire, en partant de l'observation de votre réalité locale et du vécu de votre association, mais de justifier que, quoi que vous fassiez, cela aura bien les apparats du neuf.
Simultanément à l'érection de ce nouveau totem, apparaissait un tabou, une expression devenue grossière et déplacée, subvention de fonctionnement. Celle-là même qui, en donnant une assise au travail des associations, leur permettait justement d'expérimenter et d'innover, sans être cantonnée à une épuisante course à la survie, se traduisant par exemple par des problèmes chroniques de trésorerie. Tout fonctionne maintenant au projet, ce qui change profondément notre rapport au temps.
Ce concept même d'innovation qui invite par essence à se projeter dans l'avenir est bien le cheval de Troie d'un projet politique en marche vers un passé autoritaire et inégalitaire que l'on espérait révolu. Sa surutilisation, doublée de sa malutilisation, cela devient une valeur en soi dépourvue de sens, sert à masquer l'aspiration néolibérale visant à faire du social un marché, c'est-à-dire revenir au temps où la charité, avec une non-remise en cause des rapports sociaux asymétriques, l'emportait sur la solidarité, reposant sur une visée égalitariste d'accès aux droits.
Attention, la solidarité est ce qui permet la démocratie, et remettre en cause cette première revient à affaiblir la seconde. C'est ce que réalise actuellement le macronisme, qui n'est qu'un schumpeterisme mal digéré, c'est-à-dire qui confine au malthusianisme.
Voilà un extrait d'un podcast que nous propose la revue Transrurale Initiative, une revue d'éducation populaire à milieu rural, et qui ont fait une série d'articles écrits autour de la redéfinition des mots, et qui en ont fait un podcast. On est toujours donc avec la JET. Je vous laisse peut-être réagir à cette innovation, et on en viendra peut-être à la question de comment est financée l'association de la JET. Qui veut réagir, Jacques ou Sylviane?
Moi, je pourrais réagir sur les mots, effectivement. Et dans toute la télé, les radios, dans tout ce qu'on entend, il y a des mots qui reviennent, qui sont mis à la mode, qui peut-être sont, enfin, soi-disant pour innover, mais bien souvent, il y a un sens, il y a un but derrière l'utilisation de ces mots-là. Ce n'est pas gratuit et c'est tout à fait politique.
On pense notamment justement à se réapproprier des mots pour ne pas s'en faire voler le sens, en fait.
Oui, oui, oui.
Notamment, ça peut être voilà, lutte de classe, par exemple. On a longtemps effacé le mot lutte de classe ou capitalisme. On voit qu'il est revenu. La JET y a participé avec, en osant intituler des conférences par ces mots-là, notamment.
Eh oui.
J'en viens justement à la question. Il a été question donc, dans ce podcast de financement des associations. Depuis 23 ans, comment la JET est-elle financée et comment elle garde son indépendance de intellectuelle.
Bien, le financement, au tout départ, a été un financement assuré en grande partie par le Conseil général du Tarn. Le Conseil général du Tarn qui nous a octroyé donc, une subvention annuelle. Elle n'était pas dite le fonctionnement, mais elle nous aidait à démarrer, disons, notre tâche. Bon. Ça, c'était une subvention sonnante et trébuchante. Et puis, il y avait ce qu'on peut appeler les subventions à côté, c'est-à-dire les biens en nature. Les biens en nature, c'est l'Université Champollion. L'Université Champollion qui, au début, nous prêtait gracieusement, je dois le dire, ses amphithéâtres pour assurer nos conférences. Depuis le temps, la crise étant passée aussi dans les universités, l'université a eu besoin d'argent et par conséquent, elle a demandé une contribution pour l'utilisation de ces amphis, bon, ce à quoi on a répondu favorablement. Et chaque année, bon, on négocie une certaine somme pour l'utilisation des amphis. Quant à notre indépendance, je dois dire qu'en 23 ans, et la liste des conférences que nous avons données peut en témoigner, elles sont extrêmement variées, politiques, économiques ou sociétales. Il n'y a jamais eu aucun sujet censuré par l'université qui nous prêtait les amphis. On a pu faire venir des personnalités de tous bords, car certains, c'était des sujets politiques, en particulier sur la guerre au Moyen-Orient. Hein, bon, c'était des sujets qui, à une certaine époque, étaient un petit peu chauds, mais on n'a jamais eu d'interdiction. Donc, on a pu, disons, œuvrer en toute indépendance vis-à-vis de ces institutions-là.
Il y a aussi la participation financière des adhérents et adhérentes, j'imagine.
Voilà,
aussi,
alors la participation financière des adhérents, elle se fait de deux façons, c'est-à-dire ceux qui sont adhérents à l'association et qui payent une cotisation annuelle qui est très modeste. Elle a été pendant 15 ans, je crois, de 5 euros et il a fallu que ce soit les adhérents eux-mêmes qui disent « Mais attendez, 5 euros, ça représenterait ?» Bon, alors, maintenant, elle est de 10 euros, alors c'est quand même pas... Et puis, il y a un chapeau. Bon, le chapeau, ça a été institué au début, tout à fait au début, on met un chapeau, et si les gens sont contents, eh bien, ils mettent 1 euro, 2 euros, 0 euros, 5 euros, ça dépend. Voilà, voilà quel est le financement, comment se résout le financement de la GED.
Il y a aussi la possibilité de faire des dons, et la possibilité maintenant, grâce au site, d'adhérer. En ligne. Et de faire un don en ligne.
On rappelle que là, en fait, les financements de l'association, ça sert, il n'y a pas de salariés dans l'association, donc tout le monde est bénévole. Absolument. Et donc ça sert au défraiement des conférenciers, au paiement donc maintenant de l'amphithéâtre, ou éventuellement le site internet aussi qui représente un coût. Mais les universitaires ou intellectuels qui sont invités, eux, ne sont pas payés puisqu'ils sont par ailleurs payés par l'université ou d'autres...
Voilà, donc ça j'ai oublié de le dire et je m'en excuse auprès d'eux, mais tous nos intervenants viennent gracieusement. On les défraie de leur transport, ce qui me paraît naturel, mais il n'y a jamais eu aucune rémunération pour quelques conférences que ce soit.
Transport et hébergement.
Oui, transport et hébergement, soit à l'hôtel, soit chez l'habitant, ça dépend des lieux et des fois, mais enfin bon.
Il n'y a pas de pot de vin.
Non. Il y a des bons coups de vin, mais à part ça, il n'y a pas de pot de vin.
Alors, on connaît aussi là, le paysage albigeois, l'Université pour tous. Est-ce que la GED a des liens avec l'Université pour tous et lesquels?
Oui, bon, disons que heureusement, on a de très bons liens avec l'Université pour tous. Tant et si bien que, étant donné que nous utilisons quasiment les mêmes locaux à l'Université Champollion, bien généralement, on se concerte officieusement et pas officiellement, mais pour savoir les dates des conférences qu'ils veulent donner, les sujets qu'ils vont aborder, pour essayer de ne pas tomber, disons, le même jour ou à la même heure ou sur le même thème à quelques jours d'intervalle. Hein. Alors bon, il nous est arrivé des fois de faire des rendez-vous, des conférences. Eux avaient l'habitude de faire des conférences à 18h, nous à 20h30, donc ça tombait très bien, on pouvait même les faire le même jour, mais on évitait évidemment sur les thèmes d'aborder les mêmes thèmes, ce qui serait, disons, pour une ville comme lui un petit peu déplacée. Mais on a un très bon rapport avec l'UPT.
Quels autres liens avec d'autres associations partagez-vous les mêmes valeurs à travers l'histoire et encore maintenant?
Oui, alors nous avons des partenaires permanents comme la libre pensée, ben, l'université pour tous, FSU. Bon, évidemment, dans nos partenaires, il y a le département, il y a l'université Champollion, il y a ISIS, où on fait les conférences à Castres. Enfin, bon, ce ne sont pas vraiment des associations. Et dans les partenaires occasionnels, on peut citer l'ATAC, le Cercle Condorcet, le MAN, le MRAP, la CIMAD, la Confédération Paysanne, le Planning Familial, le Secours Populaire, l'Association France-Palestine, la Revue du Tarn, CGT, Solidaire, Radio Albigès, Psychologie et Politique, l'UNSA, le Syndicat de la Magistrature, j'en ai peut-être oublié, mais bon, il y a aussi des partenaires qui sont vraiment occasionnels à l'occasion d'une conférence. Il y en a qu'on retrouve plus souvent.
Dans la liste, il y a des syndicats, la CGT ou Solidaire, oui. Ou la FSU. C'est aussi pour être en lien avec le monde du travail, pour faire le lien entre ce que vivent les travailleurs et travailleuses et essayer de l'analyser et éventuellement d'en débattre, voire d'en proposer une critique.
On a tenu donc à associer les syndicats aux partenaires aux travaux de notre association. La seule chose que l'on s'est interdite, c'est d'associer les partis politiques. C'est-à-dire tout parti politique. Il n'y a jamais aucun parti politique qui n'a financé, qui n'a proposé donc, des conférences initiées par la JET. Autrement, après, toutes les associations ou syndicats, pourvu qu'ils aient une orientation jaurésienne ou de gauche, voilà.
On rappelle à nos auditeurs et auditrices qu'on est toujours avec Jacques Trinck et Sylviane Vielle de l'association Jaurès Espace Tarn. On a enregistré cette émission début 2021 et justement on va venir un petit peu plus parler de l'actualité, juste après un extrait de notre son qui nous parle d'éducation populaire aussi.
On recherche à émanciper les gens, à développer l'émancipation. Aussi de les outiller, de travailler à des outils, des façons de s'organiser qui soient différentes pour avoir des résultats.
Des temps et des méthodes où les gens peuvent de nouveau se vivre avec d'autres comme des sujets politiques et comprendre où ils sont dans le monde, où ils veulent aller et comment le monde fonctionne.
Les conférences gesticulées, c'est un des vecteurs qu'on a choisi d'utiliser. C'était une autre façon de toucher des gens, et notamment des gens moins convaincus, par l'excuse du spectacle. Toucher des gens qui ne seraient pas venus à une conférence d'ATAC ou du NPA, ou une conférence traditionnelle, voilà.
Des centaines de personnes se disent « mais moi aussi, j'ai envie de faire ça. Moi aussi, j'ai des choses à dire. Moi aussi, je veux livrer mon savoir politique sous forme d'un objet un petit peu construit que j'offre. Et qui, cet objet rencontre de nouveau d'autres personnes qui disent, mais moi aussi. Enfin, tu vois. Et maintenant, on fait des formations où on invite des gens à parler d'eux alors qu'ils viennent pour parler d'un sujet.
L'activité principale de la SCOP, ça reste les stages de formation. Enfin, plutôt de déformation. On va travailler à la fois sur la capacité argumentaire, c'est-à-dire entraîner les gens à trouver des arguments, à les expliciter, à être capable de défendre un peu leur point de vue, y compris quand ils sont en minorité. Et après, on fait souvent des exercices pratiques, parce que pour nous, l'éducation populaire, ça se vit aussi. On a fait des porteurs de parole. C'est un système de débat public dans la rue, où tu vas discuter avec des inconnus, avec des passants, donc aussi avec des non-convaincus. Et donc, tu poses une question dans l'espace public et tu vas t'entretenir avec les gens pour comprendre leur point de vue sur la question que tu poses et noter un peu leur discours et sortir de ce qu'ils vont dire une phrase ou deux ou trois, on appelle ça une pépite, qu'on va après afficher sur des panneaux. Et l'ensemble des réponses des gens, ça va constituer un mur de réponses de citoyens lambda, de passants, etc., qui fait réagir encore plus les autres passants. Et ça entraîne du débat public. Conduire un entretien avec quelqu'un de non convaincu et d'inconnu, bah, par exemple, pour un paysan, c'est pas forcément ce qu'il fait tous les jours, quoi. C'est pas son quotidien. Et c'est un exercice qui est hyper formateur, à la fois pour écouter réellement ce que la personne a à en dire, et à la fois pour amener aussi des éléments de réflexion, formuler des arguments, essayer d'en discuter, etc., pour qu'à la fin, il y ait un peu plus d'intelligence collective, qu'on se soit donné du temps pour réfléchir.
Voilà, Franck Lepage et Gaël Tanguy de la SCOP Le Pavé, qui en 2007, avaient un petit peu ravivé quelques méthodes de l'éducation populaire, notamment la conférence gesticulée ou le porteur de parole qu'on a entendu, donc poser une question dans la rue et essayer d'en faire un savoir politique collectif. Vous, à la JET, comment vous avez vu un peu arriver ces gens qui arrivaient avec des nouvelles formules, comme la conférence gesticulée par exemple, qui change un peu de la conférence universitaire. Comment vous avez vu arriver ça, et est-ce que justement, on va en parler, je crois que vous en proposez une.
Oui.
Qui veut Sylviane ?
Bien, oui, nous on pense que ça redonne un peu de nouveauté, c'est une autre façon de faire des conférences, ça change un peu, c'est nouveau, et on propose là, il y a à notre agenda, une conférence gesticulée qui est prévue le 27 avril, le titre de la conférence c'est Autostop Bure, c'est sur le nucléaire. Et c'est Marie Bédunot qui est comédienne qui nous a proposé de faire ça. Donc oui, ça change et on aimerait bien aussi se renouveler en faisant venir des jeunes. Alors si des jeunes ont des propositions intéressantes à faire, nous sommes preneurs.
On va parler justement du programme. Là, on a parlé de cette conférence gesticulée qui, si tout va bien, selon le contexte, devrait avoir lieu le 27 avril, c'est ça ?
C'est ça.
De cette année. À surveiller, le site internet à surveiller pour voir justement l'heure et les conditions de la conférence, mais a priori, ça devrait être le 27 avril. En présentiel, si tout va bien, et on verra s'il y a des choses qui vont bouger. L'année a déjà démarré pour la JET avec une visioconférence. Est-ce qu'on peut parler un peu de cette première visioconférence qui a eu lieu et des prochaines, et comment ça se passe, puisque pour l'instant l'amphithéâtre de la faculté n'est pas accessible. Comment ça se passe une conférence sur informatique avec la JET?
Oui, alors on a fait, c'était notre première, là, la semaine dernière, juste il y a 8 jours, une conférence avec Bernard Vasseur sur le communisme a de l'avenir si on le libère de son passé. Alors, on utilise Zoom, apparemment, c'est très, très utilisé. C'est pas mal, dans le contexte, c'est satisfaisant, mais ce n'est pas ce qui nous satisfait le plus, ce n'est pas vraiment notre ADN, comme on pourrait dire. Ceci dit, ça permet quand même à la JET de continuer à être présente, à agir, continuer à échanger, à discuter, à apprendre. Alors, cette première conférence, moi j'ai trouvé que c'était très satisfaisant, je ne m'attendais pas. Il y a eu une quarantaine de connexions, on va poursuivre.
Et si on poursuit justement les prochaines visioconférences, on peut en parler du programme et des invités.
Oui, mais la prochaine, c'est le 16 mars, normalement, le 16 mars prochain, avec quelqu'un que les gens de la JET connaissaient très bien, c'est Jean-Marie Arribé, qui est un prof d'économie de Bordeaux, et il nous propose comme titre de sa conférence « Le trou noir du capitalisme ».
Vaste programme.
Oui, alors c'est une conférence qui normalement aura lieu à 18h30, en visioconférence, alors à Castres, mais ça le lieu, je pense que lui, j'aimerais rêver, restera à Bordeaux.
J'ai oublié de préciser, il y a deux façons d'être informé sur les conférences de la JET. D'une part, par le site, et le lien Zoom sera indiqué, mais également... pour les adhérents et les amis de la JET. Donc, pour être ami de la JET, il suffit de le dire. Il suffit aussi d'adhérer. Hein. Un mail est envoyé avec les coordonnées pour le lien, l'heure, etc.
Donc, il faut s'inscrire à une lettre de nouvelles, une newsletter ou des choses comme ça?
Alors, on peut s'inscrire à une newsletter sur le site ou bien il suffit aussi... Alors, vous aurez sur le site l'adresse mail de la JET. Il suffit d'écrire à cette adresse-là. En allant sur le site, vous avez tous les renseignements.
AJET, donc AJET.fr.
Oui.
Pas de compliqué, c'est simple comme le nom.
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres conférences de prévues ou c'est encore dans les cartons
Non. Le 31 mars, il y a une autre conférence prévue qui est plus spécifiquement en l'aise puisqu'il s'agit de la conférence « Les Juifs à la conne pendant la Deuxième Guerre mondiale ». Par Sandra Marc, qui est un prof d'histoire et qui particulièrement a étudié cette partie de l'histoire du département de Tarn, hein. De 1942 à 1944, hein, 750 juifs, presque tous étrangers, vécurent à la conne. Et la plupart d'entre eux y furent contraints par une mesure antisémite de Vichy, méconnue du grand public, l'assignation à résidence. Donc elle va nous raconter un peu quel fut l'accueil des Laconnais. Comment les Juifs tentèrent de s'adapter à cette situation et quelles furent les réactions des uns et des autres face aux rafles qui, évidemment, ont eu lieu à ce moment-là. Ça, c'est pour le 31 mars. Ensuite, il y a la conférence gesticulée dont on parlait à l'instant, qui normalement se déroulera le 27 avril, autostop Bure, sur le nucléaire, Bure étant donc l'endroit où on doit enfouir les déchets nucléaires. Le 25 mai, un ciné-débat.
Alors, je voudrais dire que, à partir de ce moment-là, les dates qu'on vient de vous dire, elles sont fixées. Les dates qu'on va vous donner maintenant, elles seront à préciser pour mettre sur le site les futures conférences. On a été obligé de donner une date. Mmh. Donc, et c'est bien marqué sur le site telle date, mais à préciser.
Hein. D'accord.
Voilà. Alors, un pays qui se tient sage, c'est sur une radiographie des violences policières. Donc, c'est le réalisateur qui a reçu, donc, et soutenu par la quinzaine de réalisateurs, David Dufresne, qui nous présentera ce documentaire qui, je suppose, suscitera pas mal de réactions. Alors, ce serait bien, évidemment, que ce soit un ciné-débat in vivo, et pas... Mais enfin, bon, ça, on n'y peut rien.
Alors, ce n'est pas encore sur le site, mais en mai, on prévoit une conférence sur la commune. La commune n'est pas morte.
Pour son anniversaire, j'imagine. Hein.
Voilà, oui. Par Jean-Luc Vézinet, qui est un Tarnais lui aussi. Alors, elle n'est pas encore vraiment programmée.
Mais on va refaire la programmation. Oui. Puis, l'Europe au pied du mur. Alors, l'Europe au pied du mur, c'est début juin. C'est un ciné-débat, donc normalement ça aura lieu à Castres, mais bon, peut-être ça aura lieu en visioconférence, mais l'actualité nous le dira. Hein. L'Europe se replie sur ses frontières en construisant des murs, Hongrie, Grèce, Espagne, en s'équipant de moyens de surveillance de plus en plus coûteux, en déployant des milliers d'hommes pour les surveiller, en dépensant des milliards d'euros. Malgré tous ces murs, l'Europe voit arriver des milliers de réfugiés, et ce documentaire interroge la politique européenne de repli sur soi. C'est une enquête à travers l'Europe pour découvrir et comprendre la face cachée de ces murs que nous, citoyens européens, ne soupçonnons pas. Donc ça, normalement, c'est le 8 juin.
Enfin, en juin, oui.
Et la dernière de l'année, c'est « Faut-il ouvrir les frontières ?» Vous voyez, bon, ce sont deux conférences qui se suivent et qui se ressemblent beaucoup. Alors que la mobilité est reconnue comme un facteur essentiel du développement humain, les deux tiers des habitants de la planète ne peuvent circuler librement. Et c'est Catherine Vitold de Venden, qui est directrice de recherche au CNRS et des recherches internationales de série de Sciences Po, qui viendra animer, soit en visio, soit en direct, cette conférence qui est prévue le 17 juin 2021. En principe à Castres, mais là aussi, comme le disait Sylviane, les informations arriveront au fur et à mesure de notre connaissance.
À suivre donc sur agette.fr voilà. Ou sur la newsletter ou même sur l'agenda de Radio Albitzès, puisqu'on annoncera les mises à jour des dates sur nos ondes.
Et j'en profite pour remercier Radio Albitzès aussi de sa participation au travail de l'agette.
Et on remercie les gens autour de la JET et à la JET qui ont soutenu aussi Radio Albigès dans la période compliquée qu'elle a eue l'année dernière. Ouais. Merci encore à Sylviane Vielle et Jacques Trenck. On a tout dit, je pense.
Peut-être on peut parler de tout ce qu'il y a sur le site.
Oui.
Hein, il y a une présentation de la JET. Qu'est-ce que c'est la JET ? La JET, c'est toute une histoire, donc on revient sur, quand même brièvement, mais c'est assez complet, comment la JET est née et comment elle a évolué. En archive, il y a la liste de toutes les conférences de la JET, que la JET a organisées depuis 1996 jusqu'en 2019, mais bon, ensuite on va actualiser. Je précise que pour toutes ces conférences, il est possible soit d'avoir un compte rendu écrit, soit d'avoir un DVD. Nous avons évidemment la liste de tous les logos de nos partenaires, évidemment comment fonctionne la JET, conseil d'orientation, le bureau avec les membres et même les photos des membres du bureau. Alors les statuts, non pas les statuts, la charte et le règlement intérieur sont sur le site. Et évidemment, le grand truc, comment adhérer en ligne. Et surtout, le plus important, l'agenda.
On peut citer peut-être l'autrice de ce beau site.
Oui, c'est Léa Rabatel.
qui a fait un super travail de mise en forme et de mise en image.
Oui, qui a fait un très beau site et je travaille avec elle depuis le début. Je m'amuse bien.
Très bien. On va se quitter sur un extrait de la conférence du 23 février dernier pour mettre un peu dans l'oreille aux auditeurs et auditrices qu'est-ce que ça peut donner une conférence, une visioconférence de l'AGET, en espérant bien sûr qu'elles se feront en présentiel, comme on dit, dans les mois qui viennent. Mais en tout cas, pour les prochaines, vous saurez comment on peut interagir, comment on peut justement, peut-être ça peut aussi, pour les timides, être plus facile de poser des questions derrière son ordinateur à un conférencier, peut-être que dans une salle. Donc voilà, il y a ces avantages et ces inconvénients.
Mais on pose les questions oralement.
Oui, c'est ça. Mais voilà, derrière son écran, on peut peut-être, ça peut peut-être être, on peut couper la caméra si on veut, etc. Voilà, il y a plusieurs options. Je vous laisse écouter ça et je vous remercie encore Jacques et Sylviane, donc membres de l'association Jaurès Espace Tarn. Et on relie l'appel. On a dit tout à l'heure, jeunes ou moins jeunes, n'hésitez pas à rejoindre l'équipe de l'AGET, à proposer des conférences, à proposer aussi de l'aide pour l'organisation des conférences ou pour l'hébergement, pourquoi pas, des conférenciers qui viendraient sur l'Albigeois. Et ou même peut-être des gens qui voudraient eux-mêmes faire des conférences parce qu'ils ont des choses à dire, des livres qu'ils ont à développer ou des choses comme ça, n'hésitez pas à contacter l'AGET sur le site internet aget.fr. Merci encore.
Merci.
Au revoir.
Merci.
Est-ce qu'on peut vraiment sortir du capitalisme sans sortir de l'Union européenne? Quand on sait que l'Union européenne, c'est une union du capital qui sert le dumping social et la finance, et qui dessert le travailleur?
Alors, ça dépend évidemment, comme toujours, ce qu'on appelle l'Europe, l'Union européenne. Si l'Union européenne, c'est l'Europe actuelle, avec les institutions de l'Europe actuelle, c'est ça que vous voulez sans doute dire au sens strict, alors oui, je crois que c'est bien difficile. L'Union européenne, c'est un marché qui est là pour jouer, en quelque sorte. Qu'est-ce qui caractérise le marché en régime capitaliste? Évidemment, la concurrence la plus sauvage, mais c'est un marché étendu à plusieurs centaines de millions de consommateurs. C'est ça qui intéresse les forces du capital qui ont créé ce marché. Moi, ça me paraît en effet clair qu'on ne peut guère attendre de cette Europe-là quelque chose de positif. On le verra bientôt avec la dette. Par contre, puisqu'on sort de l'Europe, faut-il revenir à l'échelon national, à la France? Ou faut-il tenter de trouver de nouvelles institutions européennes, par exemple pour faire des coopérations? Par exemple, la question des vaccins. Il est clair que pour trouver très vite des vaccins, il faut, on peut très bien là coopérer en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est pas seulement une affaire d'État. Vous voyez, il y a le vaccin français qui n'a pas eu lieu, le vaccin anglais, le vaccin allemand. Non, ce qui compte, c'est le vaccin et qu'il soit fait en coopération. Il y a des politiques agricoles communes qu'on peut concevoir et qui seront sans doute très différentes de celles qui existent aujourd'hui. Donc, on peut tout à fait concevoir.
Merci encore à Sylviane Vielle et Jacques Trinck de l'association Jaurès Espace Tarn à retrouver sur aget.fr. C'était une entrevue enregistrée le 2 mars 2021.
De fabriquer un État. Vous voyez, en gros, on a fabriqué une monnaie, on a fabriqué un marché et on a fabriqué une monnaie qui échappe aux États. C'est-à-dire que les États sont souverains, mais ils n'ont plus la souveraineté sur la monnaie. La monnaie est dans les mains des forces dominantes du marché. Elle n'est plus dans les mains de l'État. Et par conséquent, évidemment, ça donne les déséquilibres qu'on a pu voir. Ça donne une monnaie qui est très sensiblement identique aux marques allemandes, ce qui fait que dès que vous essayez de l'appliquer en Grèce, évidemment, vous aboutissez à ce qu'on a connu et à la soumission de la Grèce au diktat de la Troïka, comme vous voyez, de l'Europe. Bon, autrement dit, vous avez raison sur l'Europe actuelle. Par contre, je crois qu'on peut très bien imaginer de développer des coopérations européennes, mais des coopérations qui seront de véritables coopérations d'entraide, de solidarité. Vous voyez, je pense qu'on pourrait faire un revenu minimum européen, ce serait déjà un pas important.